I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était intéressant de discuter avec toi ? Est-ce que t'as déjà eu l'impression de parler avec quelqu'un et d'avoir l'impression que cette personne était en train de réfléchir à ce qu'elle allait pouvoir dire pendant que t'étais en train de parler ? Est-ce que t'as déjà eu l'impression, quand t'as écouté deux hommes politiques discuter, qu'en réalité, ils s'écoutaient pas mutuellement, ils essayaient juste de renforcer leur point de vue ou peut-être de convaincre les gens qui sont déjà de base d'accord avec eux ? C'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui à travers la règle numéro 9 du livre 12 règles pour une vie du docteur Jordan Peterson. Assume that the person you're listening to might know something you don't. Suppose que la personne que tu es en train d'écouter sait quelque chose que tu ne sais pas. On va comprendre ce que ça veut dire que d'avoir une discussion philosophique, comprendre comment est-ce que tu peux faire pour grandir le plus possible dans la vie et devenir une âme la plus éclairée possible. C'est quelque chose qui est très stressant, comme on va le voir, qui fait peur à beaucoup de gens. On va comprendre l'intérêt d'une thérapie, l'intérêt que c'est du coup d'avoir une personne en face de toi qui t'aide à structurer tes pensées, comment est-ce qu'on se sert de façon générale des autres êtres humains pour structurer nos pensées, pour mettre un peu de l'ordre dans notre cerveau. Mais pour ça, on va d'abord devoir commencer par se demander ce que ça veut dire que de réfléchir. Peut-être une petite précondition de base, alors peut-être même une petite, un petit préambule, je sais pas comment on dit, genre un petit truc à dire avant tout ça, c'est que cette neuvième règle, elle est liée à la huitième règle. En fait, la huitième règle, celle que du coup on a déjà vue via l'épisode précédent, tell the truth or at least don't lie, donc dis la vérité ou au moins ne mens pas, nous aide à comprendre la neuvième règle et également la dixième règle. Pour ce qui est de la onzième règle, je me souviens plus exactement, do not bother children when they are skateboarding, donc... Onzième règle, c'est n'embête pas les enfants quand ils font du skateboard. Mais donc pour ça, je ne sais pas s'il y aura vraiment des implications. Mais la règle précédente, du coup, a un impact sur la règle qu'on va voir aujourd'hui et la règle qu'on verra la semaine prochaine, qui est donc be precise in your speech. Donc ces trois règles qui sont un peu interconnectées. Aujourd'hui, règle numéro 9, comme je disais, j'ai envie de commencer par poser un truc, un petit rappel. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes à l'aise avec ça, avec l'idée selon laquelle vos idées ne vous appartiennent pas. Quand tu avais 13 ans, tu avais une certaine philosophie de vie, une certaine carte qui te faisait agir dans certaines situations selon un certain pattern. Aujourd'hui, tu as une carte qui a évolué, mais pourtant, toi, tu restes la même personne. Tu vois, genre, au fond de toi, t'es toujours... moi, je suis toujours Elio. Tu vois, même si quand j'avais 9 ans, je pensais j'étais une personne qui me comportait de façon différente parce que j'avais des idées différentes, au final, je suis toujours moi. Ce qui veut dire que je peux avoir des idées que je laisse tomber, des idées que je décide d'abandonner parce que je me rends compte quand j'avance dans ma vie, qu'elles sont pas si intéressantes que ça, ou en tout cas qu'elles m'apportent des problèmes, qu'elles ne me permettent pas de résoudre certains challenges auxquels je fais face dans ma vie, et du coup je les laisse tomber, je les remplace par d'autres idées, mais au final, moi je suis toujours là. Quand tu réfléchis, tu crées dans ta tête des scénarios, tu vois, tu crées des petits avatars. Par exemple, un enfant qui se dit, vas-y, ça peut être cool d'aller sur le toit faire du tricycle, et sa sœur, elle lui dit, mais t'es un malade, si tu fais ça, tu pourrais peut-être tomber, ou peut-être que papa, il va te gronder, tu vois. Et du coup, l'enfant, il imagine son avatar en train de faire du tricycle et en train de tomber, ou il imagine son avatar en train de faire du tricycle et de se faire gronder par son père, et il se dit, ok, il est une version peut-être un peu plus concrète, complète, pardon, de ce qui pourrait arriver à l'avatar, et il se dit, ok, non, c'est pas une bonne idée, donc il décide, ok, cet avatar, je le laisse tomber. Concrètement, tu vois, de réfléchir, c'est ça. Quand tu penses à, ok, qu'est-ce qui serait préférable entre cette idée et cette idée-là, tu les laisses se combattre, tu vois, et tu regardes quelle est l'idée la plus forte. Et des fois, comme on l'a vu, t'es attaché à une idée, et t'as envie que l'idée que t'as adopté jusqu'ici, elle gagne, tu vois. Donc tu vas pas avoir les couilles, en fait, d'utiliser tous les outils qui sont à ta disposition, que ce soit peut-être des expériences ou alors peut-être une idée qui t'est proposée par quelqu'un d'autre au cours d'une conversation. Tu vas pas avoir les couilles de les utiliser pour défoncer ton idée de base. Tout simplement parce que remplacer ton idée de base, ça implique de laisser cette idée de base mourir. Et ça, comme on l'a vu, c'est douloureux parce que ça implique de reconnaître que dans le passé, t'as pas fait les choses de façon optimale. C'est pour ça que la plupart des gens... Alors, premièrement, tu vois, une chose à dire, c'est que c'est compliqué, tu vois, genre de se faire des représentations abstraite comme ça de tu vois, on parle de concept, genre quand tu parles d'idées, tu dois jouer quelque part des scénarios au sein de ton cerveau qui sont des fois complètement abstraits, et c'est compliqué. C'est pour ça que la plupart des gens ont beaucoup de peine à réfléchir par eux-mêmes, ils ont beaucoup de peine à réfléchir tout seuls. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils discutent, c'est qu'ils parlent, c'est qu'en exprimant tes idées oralement, alors une manière de le faire, c'est d'écrire. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'écrire sur ta vie. Tu vois, moi personnellement, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé quand j'ai dû préparer des vidéos YouTube, vous partager des expériences que j'avais vécues. Le fait de devoir écrire et me dire, ok, qu'est-ce que je vais raconter aux gens, de dire, ok, en fait, il m'est arrivé ça, je pose des conclusions, ça me permet en fait de structurer des événements qui me sont arrivés, structurer, enfin poser en face, les unes en face des autres, des idées que j'ai pu avoir à certains stades de ma vie, et à me demander, ok, j'avais cette idée là et en fait pourquoi est-ce que j'ai arrêté de me comporter comme ça? Ah, en fait, parce qu'en réalité j'ai eu un petit changement dans ma tête et j'ai commencé à me dire, ok, peut-être que je vais agir différemment, parce que ça se trouve, si je commence à implémenter cette idée là à la place, bah, ça va être un peu plus intéressant. Et le fait d'écrire, de poser tout ça par écrit, bah, ça te permet de, quelque part, tu frises, tu congèles, tu gèles tes pensées. Tu vois, tes pensées, elles viennent comme ça, pou, 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 elles apparaissent un peu n'importe comment dans ta tête. Quand tu les dis, ben, quelque part, tu les... S'il y a quelqu'un pour t'écouter, ou alors si tu t'enregistres toi-même en train de parler, ça te permet ensuite de... Elles disparaissent pas directement. Ou alors, si tu les écris, tu peux carrément les congeler sur une feuille et ensuite les observer. Et donc, une manière un peu plus simple de penser, ça peut être d'écrire, mais une manière un peu plus simple de penser, je veux dire de réfléchir et de faire le tri dans ton cerveau, c'est simplement de parler avec quelqu'un. Parce que quand tu parles, quand tu dis à haute voix, tu fais ce process de réflexion à haute voix tout seul. C'est pour ça, par exemple, que Sigmund Freud, le psychanalyste, il préconisait, tu vois, lui, sa méthode de thérapie pour aider les patients, c'était simplement d'allonger son patient sur un canapé. Le patient, il tel plafond, et juste il parlait, il disait ce qui lui passait par la tête. Et Freud, lui, il décidait même de ne pas faire face à ses patients. Tu vois, lui, il se mettait, il se retournait sur la chaise, il regardait même pas son patient parler, il lui parlait aussi peu que possible, il lui posait de temps en temps des questions. Comme on va le voir, les questions que Freud va poser à ses patients, c'est, et que n'importe quel thérapeute peut poser à ses patients, sont quelque part forcément biaisées par l'expérience du thérapeute. J'ai dit thérapeute avant, on dit thérapeute. Pourquoi ? Parce que bah, si je te pose une question plutôt qu'une autre, je peux pas m'empêcher quelque part d'avoir des éléments de mon expérience personnelle qui ont une influence sur la question que je te pose. Parfois, je peux avoir envie de t'amener quelque part en te posant une question. C'est pour ça que Freud y pensait, non seulement que c'était plus intéressant de ne pas faire face à ses patients, histoire d'éviter que via ses micro-expressions, si tu veux, genre un sourire, un froncement de sourcil ou alors un hochement de tête, il influence la démarche méditative de son patient. Et il insistait aussi sur le fait que les thérapeutes soient eux-mêmes suivis par un thérapeute, histoire de corriger leur propre biais, comme on l'a vu, tu vois, enfin, comme je viens de te le dire, parce que les questions que le thérapeute va te poser, c'est des questions qui sont influencées par bah, l'expérience personnelle du thérapeute. Et ça, Freud pensait que c'était pas nécessairement une bonne chose. Aujourd'hui, en thérapie, il y a plusieurs personnes qui vont, enfin plusieurs thérapeutes qui vont décider d'avoir des conversations avec leurs patients. C'est-à-dire qu'ils ils n'utilisent pas l'approche de Freud, ils vont effectivement se poser en face du patient et discuter avec lui. Et ça, c'est une approche, c'est l'approche du coup que Peterson, qui a fait de la psychologie clinique pendant, il me semble, 20 ans, utilise quand il discute avec ses patients. Il dit qu'il se pose avec eux et il discute avec les patients, mais avant de le faire, il doit très clairement se mettre dans un état dans lequel il intègre que le but de la conversation, c'est de vouloir, un, le bien de son patient, deux, de vouloir le bien de son patient indépendamment de ce que lui pense comme étant le bien de son patient, c'est-à-dire qu'il va réellement aider le patient à trouver les idées par lui-même et à faire que le patient tout seul, tu vois, il évalue ses différentes idées et il progresse dans sa réflexion. Peterson, il évite de donner des conseils à ses patients. Et tu vois, c'est un truc intéressant parce qu'on peut se dire que bah, via un livre de développement personnel ou via les podcasts que je suis en train de faire, je donne effectivement, enfin tu vois, un auteur, il donne des conseils. Il dit, ok, bah, tu vois, typiquement, suppose que la personne que tu es en train d'écouter sait quelque chose que tu ne sais pas, c'est un conseil, tu vois. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu vas lire un livre de développement personnel ou quand tu vas écouter un podcast, comme c'est le cas de ce podcast, t'es toi-même dans une démarche où t'es prêt à écouter. Tu t'ouvres ton esprit et t'es là, ok, je vais regarder cette vidéo YouTube et je vais me dire que peut-être il y a des petites choses intéressantes que je pourrais en tirer qui, si je les applique dans ma vie, vont me permettre, tu vois, de régler un peu plus facilement les différents challenges auxquels je pourrais faire face. Et c'est intéressant parce que, tu vois, moi, pendant longtemps, j'ai eu, peut-être pas pendant longtemps, j'ai eu un espèce de, je dirais pendant 2-3 ans, quand j'ai commencé à me sortir les doigts du cul et à bosser sur ma vie, j'ai eu une série d'idées que j'ai commencé à adopter et je me suis dit, putain, ça marche. Putain, en réalité, si je bosse sur moi, si je commence à suivre mes cours correctement, si je fais du sport, si je fais X, Y, Z, en réalité, ça a un impact positif sur ma vie, tu vois. Et du coup, j'ai eu envie de le partager avec des gens, mais de le partager avec des gens physiquement, non pas à travers des vidéos YouTube. Typiquement, tu vois, j'allais chez mes parents, ma mère, elle achetait, un exemple trop con, tu vois, elle achetait des boîtes, des canettes de thon, et elle achetait des canettes de thon à l'huile. Et moi, je lui ai dit, en fait, j'ai remarqué, tu vois, que moi, quand je cuisine, j'achète des canettes de thon à l'eau, et s'il faut, pour le faire revenir et lui donner un peu de goût, tu vois, je mets un peu d'huile d'olive, si tu veux, avec le thon. Et c'est beaucoup plus sain, et les canettes de thon à l'eau coûtent moins cher que les canettes de thon à l'huile, tu vois. Donc, je disais à ma mère, en fait, je te conseille, tu vois, d'acheter des canettes de thon à l'eau et de mettre de l'huile d'olive. Et c'était un conseil, si tu veux, qu'elle avait de la peine à accepter, tout simplement parce qu'on n'est pas toujours dans un état d'esprit dans lequel on est prêt à s'ouvrir à une nouvelle idée. On n'est pas toujours prêt, en fait, à écouter. Et Carl Rogers, qui est un psychologue américain, je sais plus exactement dans quelles années il a exercé, il expliquait que la plupart des gens, quand tu leur parles, en fait, ils t'écoutent pas. Et c'est pas une question de, ils font attention à ta communication non verbale, donc à ton langage corporel, c'est, ils ne t'écoutent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de t'écouter, tout simplement parce que si t'écoutes réellement quelqu'un, si t'écoutes réellement les idées qui te sont communiquées par la personne, tu prends le risque de subir une transformation. Tu prends le risque de passer à travers une espèce de turbulence, quelque part, parce que tu vas devoir faire en sorte que, enfin, tu vas laisser les idées qui te sont proposées par la personne venir s'attaquer aux idées que tu peux déjà avoir de base, tu vois. Et la plupart des gens, la plupart du temps, pas toujours, si là maintenant tu es en train d'écouter ce podcast, c'est peut-être parce que tu te dis, ok, je vais écouter ce podcast et je pars du principe que peut-être je vais être un peu dérangé dans certains principes que j'ai, peut-être que va y avoir un peu de turbulence, peut-être que je vais en ressortir comme étant une personne un peu différente et je vais devoir laisser une partie de moi, comme on l'a vu, tu vois, si tu penses que tes idées sont une partie de toi, ou en tout cas une partie des idées dont je me suis servi pour agir pendant un certain temps, mourir et reconnaître que j'ai passé un certain temps en agissant quelque part d'une manière qui n'était pas optimale. Mais c'est quelque chose, comme on l'a vu à travers la règle de la semaine passée, qui en réalité n'a pas réellement de sens, parce que le but de la vie, c'est pas d'agir constamment de manière optimale, c'est plutôt de grandir. À nouveau, je vous renvoie vers l'épisode de la semaine passée si vous avez envie de comprendre ce concept-là. Du coup, réfléchir, c'est important. Parfois, c'est compliqué de le faire à l'intérieur de soi, et du coup, on réfléchit à haute voix en parlant avec quelqu'un. Parfois, quand on le fait avec un thérapeute, on prend le risque que le thérapeute ait une théorie sur la vie. Tu vois, dans le livre, par exemple, Peterson explique que pendant une certaine époque, il y avait beaucoup de thérapeutes qui partaient du principe que si tu avais un problème aujourd'hui dans ta vie, c'était particulièrement, il me semble, des problèmes qui avaient un lien avec ta sexualité, c'était parce que tu avais été agressé sexuellement dans ton enfance. Et du coup, ils allaient constamment, via des questions ou via des petites remarques, biaiser le raisonnement du patient. Donc le patient, il arrive, il commence à dire « Ok, j'ai un problème, tu vois, dans mon couple au niveau de ma sexualité, tac, tac, tac. » Et le thérapeute, il se dit, ok, c'est pas ce qui lui est arrivé, il part du principe qu'il sait pourquoi le patient a tel problème, et donc il se dit, ok, c'est parce qu'il lui est arrivé un truc dans son enfance au niveau de sa sexualité. Et donc il va poser des questions, il va dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé avec les membres de ta famille? Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il y avait des gestes déplacés? Et là, le patient, il va dire, par exemple, écoute, non, je l'ai jamais vraiment trouvé ça. Et le thérapeute, il dit, vous êtes sûr? Vous savez que des gestes déplacés, ça peut être pas forcément ce à quoi on pense, hein. Peut-être une main sur l'épaule, ça peut être un geste déplacé. Et là, le patient, il commence à réfléchir, et des fois, il commence à se souvenir de certains trucs qui ne sont même pas passés. Et parfois, il va même accuser certaines personnes qui sont donc innocentes. Et ça, c'est pas ouf. C'est cool pour le thérapeute qui, lui, a pu avoir sa théorie et a pu quelque part la calquer sur son patient et du coup, lui-même se poser dans une position où, oui, c'est moi, ton sauveur, qui ai trouvé les raisons de ton problème et donc j'ai la science infuse et ainsi de suite, il renforce son statut. Mais ça a des conséquences évidemment dramatiques. Hein. Quand t'as des personnes qui commencent à accuser d'autres personnes de viol alors que ces personnes-là sont innocentes, c'est pas un truc que t'as envie, tu vois, de... qui se produisent, tu vois. Évidemment, une personne qui est coupable, pardon, on a envie qu'elle soit punie, mais une personne qui est innocente, tu vois, on n'a pas trop envie qu'elle soit punie. Et on a fait une décision il y a très longtemps qui est que accuser un innocent, c'est pire que de ne pas accuser un coupable. Tu vois, c'est une question philosophique assez intéressante. Est-ce que c'est préférable d'accuser une personne dans le doute et du coup prendre le risque d'inculper, pardon, une personne dans le doute et du coup prendre le risque de punir un innocent, ou est-ce que c'est plus grave de, parce qu'on accorde le bénéfice du doute à une personne qui en réalité est coupable, du coup de ne pas punir cette personne alors qu'elle est coupable? Eh ben, tu peux te poser 2 minutes si tu veux, réfléchir un peu à cette question et te dire que, au final, le monde dans lequel on vivrait, si une accusation suffit à punir une personne, ce serait un monde sacrément dangereux. Bref, on avance un petit peu. avoir une conversation avec un thérapeute, c'est intéressant, mais la plupart du temps, tu vois, les gens, ils voient pas des thérapeutes. La plupart des gens, du temps, pardon, les gens ont des conversations avec, tu vois, leurs amis, avec des membres de leur famille. Et à travers ces conversations, ils organisent leur cerveau, ils organisent leur mémoire, leur pensée. Tu vis un événement un peu compliqué, t'en parles avec tes amis, t'en parles avec tes frères et sœurs, t'en parles avec ta famille, et à chaque fois que t'en parles, à chaque fois que la personne, elle t'écoute, ça te permet de décider ce que tu vas pouvoir laisser derrière. C'est-à-dire que il t'est arrivé plein de trucs, tu vois, t'es vraiment au niveau émotionnel, t'as un peu de la peine à mettre des mots exactement sur ce qui t'est arrivé, tu t'es fait agresser par une personne, tu t'es fait tromper par quelqu'un, il t'est arrivé un truc genre super mauvais dans le cadre de ta profession, tu vas en parler avec un ami, et petit à petit, tu vois, tu vas pouvoir, au lieu d'avoir juste une espèce de boule émotionnel qui te fait te sentir mal parce qu'à chaque fois que tu y penses, tu dis « Oh mon Dieu, c'est horrible ce qui m'est arrivé », tu vas pouvoir décider ce que tu vas d'une part laisser derrière et structurer tout ça, filtrer un peu tout le truc histoire d'en tirer une morale. Et donc tu vas avoir une mémoire qui est mieux intégrée, tu vas pouvoir te dire « Ok, il m'est arrivé ça, est-ce que je vais pouvoir tirer de l'expérience, que je tire de l'expérience qui m'est arrivée ?» C'est que oui, j'ai rencontré une personne qui n'était pas, tu vois, genre qui s'est pas comportée de façon adaptée avec moi, mais ce que je peux tirer de tout ça, c'est que peut-être dans une situation similaire, bah, je pourrais plutôt me comporter de cette manière-là. Et en réalité, c'est le but de la mémoire. Le but de la mémoire, c'est de ne pas reproduire en fait les mêmes comportements qui t'apportent des résultats toxiques. Si tu te comportes toujours de la même façon, comme le disait Einstein, tu vas obtenir toujours les mêmes résultats et espérer obtenir quelque chose de différent alors que tu te comportes de la même manière, c'est ce qu'il appelait la folie. L'intérêt d'une conversation avec quelqu'un quand tu as vécu un événement difficile ou quand tu vas voir un thérapeute pour cette même raison, c'est d'avoir un souvenir mieux intégré qui te permette d'améliorer ton futur. Le but de la mémoire, c'est d'améliorer le futur. Maintenant, on va s'intéresser aux différents types de conversations parce qu'en réalité, pas toutes les conversations ont pour but d'opérer quelque part, via un processus de réflexion, un espèce de... une transformation interne. Pas toutes les conversations ont pour but de grandir. Parfois, tu as peut-être eu l'impression que tu parlais avec quelqu'un et pendant que toi, tu parles, la personne en face de toi, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va pouvoir dire.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Très simple, comme le disait Carl Rogers, je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, les gens ont peur de t'écouter réellement. Parce que si ils devaient écouter ce que tu dis et ensuite répondre, expliquer comment ce que toi tu viens de dire, ça l'a fait se poser des nouvelles questions et ça l'a fait peut-être remettre certaines de ses idées à lui en question, ben, ils s'aventurent quelque part dans un territoire inconnu, comme on l'a expliqué, comme je te l'ai expliqué, tu vois, dans l'épisode d'introduction, et j'ai parlé de cette notion d'ailleurs dans les règles 1, 2 et 3, sauf erreur, je sais plus exactement, je commence à... On a fait beaucoup de règles, tu vois, je commence un peu à perdre le fil. Mais je t'expliquais la notion de chaos. Le chaos, tu vois, c'est là où t'es, donc quand tu sais pas exactement ce qui pourrait se passer. T'es un peu dans l'incertitude. Et une conversation, quand t'écoutes réellement la personne qui est en face de toi, bah, ça te plonge constamment dans le chaos et t'as un processus, quelque part, de déconstruction, reconstruction. Et la plupart des gens, tu vois, la plupart du temps, ils le font pas parce qu'ils ont peur de le faire, ils ont pas envie de s'aventurer dans le chaos, mais souvent, ils sont juste incapables de le faire, tu vois. Il se peut que t'es en train de discuter avec quelqu'un, la personne... je sais pas, elle est fatiguée ou elle a d'autres choses en tête et elle est pas capable, elle se sent pas capable d'avoir une conversation intéressante avec quelqu'un au cours de laquelle elle va effectivement répondre à ce que tu lui dis. Donc elle est obligée, peut-être parce qu'elle a envie de t'impressionner, peut-être parce qu'elle a envie d'impressionner d'autres personnes, de réfléchir à ce qu'elle va pouvoir dire. Et donc là on arrive sur le deuxième type de conversation, ça nous permet de faire un petit lien. Elle réfléchit à ce qu'elle va pouvoir dire pour justement pouvoir renforcer son statut, se placer elle-même comme étant une personne intéressante. T'es à une soirée, tu commences à discuter avec quelqu'un et tu racontes un truc intéressant qui s'est passé, tu vois, 2-3 personnes rejoignent la conversation, vous êtes un petit groupe, et là, bam, tu dis un truc intéressant et tout le monde rigole. Et là, il y a une personne qui dit, oh mon Dieu, il vient de dire un truc intéressant, je me sens un peu nul, tu vois, je me sens un peu inintéressant, vas-y, il faut que moi je raconte une histoire qui m'est arrivée à moi et qui est un petit peu plus intéressante que l'histoire que le mec vient de raconter. Et du coup, il raconte un peu une petite histoire, mais qui a juste pour but de... bah, de se montrer lui-même, tu vois, comme quelqu'un d'intéressant. Et quand t'arrives dans cette dynamique, tu te retrouves en fait généralement avec un sentiment de malaise général parce que les gens commencent à réaliser qu'en fait, on n'est pas dans une réelle conversation philosophique, une conversation qui aide tout le monde à grandir, qui sont les conversations les plus intéressantes qu'on peut avoir on y arrive tout de suite. T'as aussi les conversations, les dialogues politiques. Tu vois, quand t'as deux politiciens qui discutent, ils sont pas en mode « vas-y, je suis en train de réfléchir » ou « je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que l'idée que la personne est en train de partager en face de moi peut m'aider à trouver une solution. » On n'est pas là pour trouver une solution. Deux politiciens qui font un débat, ils sont pas là, tu vois, quand ils parlent, j'en sais rien, du chômage, ils sont pas là pour trouver une solution au chômage. Ils sont là pour, un, ridiculiser le point de vue de la personne adverse parce qu'ils partent du principe que leurs axiomes, les idées de base qu'ils ont, que ce soit des idées de droite, que ce soit des idées de gauche, que ce soit des idées progressistes ou des idées conservatrices, sont des idées qui sont justes et qui ne peuvent pas être changées. Et du coup, le but, ça va juste être de ridiculiser le point de vue adverse. Pourquoi ? Parce que le point de vue adverse se base sur des axiomes qui sont différents et de renforcer leur point de vue tout en gagnant l'approbation des personnes qui sont déjà d'accord avec elles. Donc l'approbation des spectateurs, l'approbation des téléspectateurs qui sont déjà, de par leur tempérament, alors c'est pas une notion dont j'ai parlé ici parce que dans ce livre-là, Peterson parle très peu de la personnalité, mais j'ai suivi un cours sur la personnalité super intéressant, vous pouvez, je sais plus combien écoute exactement, c'est un cours d'une quinzaine de vidéos, dans laquelle en fait, dans une des vidéos du cours, Peterson explique que la plupart des gens votent leur personnalité, c'est-à-dire que t'as des personnes qui par tempérament, par exemple, sont plus ouvertes à l'expérience que d'autres, c'est le genre de personnes qui vont plus facilement avoir envie de partir en vacances dans des endroits dans lesquels elles sont jamais allées, tu vois, d'aller s'ouvrir à des cultures qui sont nouvelles, par exemple entre une personne qui décide, si t'es plus du genre par exemple à partir en vacances je sais pas mec, au Vietnam parce que c'est pas un pays que beaucoup de gens explorent plutôt que de partir en vacances à Barcelone ou de partir en vacances au sud de la France ou de partir en vacances tu vois dans ces destinations classiques, c'est que t'es une personne plutôt ouverte. Si quand tu vas au restaurant tu optes plus facilement pour des plats que t'as jamais testé, c'est que t'es une personne plutôt ouverte. Si t'es une personne qui généralement a plus de facilité à t'ouvrir à des nouvelles idées, c'est que t'es une personne plutôt ouverte. Donc une personne qui est moins ouverte, tu vois, l'ouverture, c'est un spectre. C'est pas, t'as des personnes ouvertes et des personnes peu ouvertes. Et une fois de plus, il n'y a pas une seule bonne solution. Typiquement, quand les Espagnols, tu vois, sont arrivés, alors peut-être que je vais commencer par décrire une personne moins ouverte. La personne moins ouverte, tu vois, c'est une personne qui aura tendance à être plus conservatrice. Une personne très ouverte, une personne plus progressiste, qui s'ouvre plus aux nouvelles idées, qui pense plus qu'il faudrait, ok, ça pourrait être intéressant d'avoir cette nouvelle façon de fonctionner. Ah, ok, il y a 2, 3, 4, 500 genres, ah, ça peut être intéressant, vas-y, viens, on teste le truc. Le conservateur, lui, à contrario, il va se dire plutôt, ok, non, je suis pas super chaud à l'idée de m'ouvrir à ces nouvelles idées. Et à nouveau, tu vois, il n'y a pas un groupe qui a raison et un groupe qui a tort, tout dépend du climat dans lequel, de l'environnement dans lequel on se situe. Parfois, la réponse appropriée, c'est plutôt une réponse progressiste. Parfois, la réponse appropriée, c'est plutôt une réponse conservatrice. Typiquement, tu vois, genre, quand est-ce qu'une réponse conservatrice pourrait être plutôt appropriée? Parce qu'on pourrait se dire, c'est cool de s'ouvrir à l'inconnu. Quand tu t'ouvres à l'inconnu, tu t'ouvres à des nouvelles idées, t'ouvres les frontières quelque part, et du coup, t'as des nouveaux talents, des nouvelles cultures, et la rencontre avec ces nouvelles cultures, elle va permettre du coup de donner naissance à des nouvelles idées, trouver des nouvelles solutions aux mêmes problèmes. Et si t'es trop conservateur quelque part, si t'appliques toujours ce qu'on a appliqué, vu que l'environnement y change, bah tu fonces tout simplement toujours avec la même solution, les problèmes sont des nouveaux problèmes et du coup ta même solution elle fonctionne plus pour les nouveaux problèmes auxquels tu fais face. Donc quelque part t'as besoin parfois de remettre en question la façon de faire qu'on a toujours employée jusqu'ici, histoire de pouvoir résoudre les nouveaux challenges. A contrario, s'ouvrir à l'inconnu, ça présente une certaine part de danger. Les Espagnols, par exemple, quand ils sont arrivés en Amérique centrale, sur la péninsule du Yucatan, Tulum, ils sont arrivés à Tulum, à Playa del Carmen et à Cancun, bah, y a certains Mexicains, probablement, qui étaient là, ok, c'est des étrangers, on devrait construire un mur, on devrait pas les laisser entrer. Et t'as d'autres Mexicains, plutôt progressistes, plutôt ouverts de tempérament, qui se sont dit, non, vas-y, c'est cool, viens, on les fait venir. En plus, ils ont des chevaux, ils ont l'air stylés, ils ont la peau blanche, viens, on essaye de faire du business avec eux. Donc, ils ont décidé, en l'occurrence, les Mexicains, d'ouvrir leurs frontières aux Espagnols. Et ce qui s'est passé, c'est que vu qu'en Europe, on vivait beaucoup en contact avec des animaux domestiques ou des animaux de ferme, tu vois, genre des cochons, des poules, tout ça, on avait des maladies comme la rougeole, la variole, le choléra et ainsi de suite, peut-être que je me trompe, au niveau des maladies, mais c'était des maladies pour lesquelles les indigènes en Amérique centrale ne possédaient pas des anticorps. Et du coup, en fait, t'as 90%, t'as des millions, mais ça a été une épidémie, mais genre juste complètement incroyable, je vais pas te sortir les chiffres exacts, mais t'as littéralement des millions d'Amérindiens qui sont juste morts des maladies qui ont été amenées par les Espagnols. S'ouvrir à l'inconnu, parfois, c'est pas la bonne solution. Et donc, quand t'as un dialogue politique, bah t'as le progressiste qui va dire « Ah, il faut changer les choses, parce que c'est bien de changer les choses. » Lui, il part du principe que changer les choses, c'est forcément bien à porter, tu vois, dans le mot progressiste, t'as le mot progrès, et donc ça donne forcément l'impression que c'est forcément mieux. Mais le progrès, des fois, enfin, les solutions que t'apportes, elles peuvent apporter des nouveaux problèmes. Et si tu ne réfléchis pas, si tu ne remets pas en question les solutions que tu proposes, c'est-à-dire que tu ne t'ouvres pas ton esprit et tu n'essayes pas d'utiliser du coup ton esprit critique pour essayer de comprendre comment est-ce que les solutions que tu as pu apporter, bah, elles pourraient effectivement apporter des nouveaux problèmes. Et quand tu as un conservateur en face de toi qui te dit, bah, écoute, ça se trouve, ce serait pas une bonne idée d'implémenter ta nouvelle solution. Et toi, tu dis, ah, c'est un conservateur de merde, et ainsi de suite, tu te fermes à son idée, tu n'es plus dans la réflexion. Tu es juste dans essayer de pousser ton idée, histoire de gagner la validation, comme on l'a vu, des personnes qui sont tout comme toi progressistes, et de ridiculiser le point de vue des conservateurs. Et c'est pas la bonne solution. Ok ? Donc, différents types de conversations qui sont pas forcément hyper optimales. Et on en arrive à la conversation philosophique. Pour avoir une conversation philosophique avec quelqu'un, il y a plusieurs points qui sont absolument indispensables. Tout d'abord, vous devez les deux, ton interlocuteur et toi-même, faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que vous devez reconnaître que vous ne savez pas absolument tout sur le monde. Et d'ailleurs, si tu savais tout sur le monde, mec, ta vie, elle serait parfaite, t'aurais pas de problème. Le fait est que c'est pas le cas, et donc il y a forcément des choses qui te restent à apprendre. Donc les deux, vous engagez dans la conversation en sachant qu'il y a des choses que vous allez pouvoir apprendre de cette conversation. Si par exemple, tu sais qu'il y a une idée que tu vas présenter qui est en réalité bancale parce qu'un jour, tu as entendu quelqu'un te dire un truc et tu t'es dit, en fait, ça se trouve, mon idée, elle est bancale et je devrais peut-être la remplacer par cette idée que j'ai entendue. Et bien, quand tu poses ton idée sur la table, tu vas également poser le contre-argument à ta propre idée. Et vous allez les deux faire la même chose. C'est-à-dire que quand toi, tu vas m'apporter quelque chose, je sais que quelque part, tu as fait de ton mieux pour défoncer l'idée que tu es toi-même en train d'apporter sur la table. Les deux, vous engagez dans la même démarche. Les deux, vous avez pour but d'avoir une conversation qui va vous faire grandir et non pas une conversation qui va avoir pour but de renforcer votre statut ou de solidifier des idées préconçues. Vous n'êtes pas en mode, vas-y, je vais m'engager dans cette conversation, mais de toute façon, ce que je sais, c'est déjà suffisant et j'ai pas envie d'en apprendre un peu plus sur le truc, donc je vais simplement essayer d'attaquer les idées de l'autre plutôt que d'attaquer les miennes. Pourquoi ? Parce que dans la démarche, dans la conversation philosophique, le but, ça va être, comme on va le voir, c'est un raisonnement contre-intuitif, d'attaquer tes propres idées à l'aide de l'idée de la personne en face de toi. À nouveau, quand je dis tes idées, c'est pas des idées qui t'appartiennent à toi, c'est effectivement c'est des idées, tu vois, comme on l'a vu, que t'as pu entendre à droite à gauche, que t'as pu apprendre via des livres, via des films. C'est des fois des idées que t'as pas forcément complètement formulées, donc tu vas essayer de les formuler de façon peut-être maladroite, donc tu vas les poser au milieu du truc. C'est pour ça d'ailleurs que Carl Rogers expliquait, de nouveau, tu vois, c'est le mec qui disait que la plupart du temps on a de la peine à écouter, il disait que pour améliorer ta capacité d'écoute, et ça peut être un truc super utile quand t'es dans une conversation un peu tendue avec une personne, de reformuler le point de vue de la personne en face de toi. C'est-à-dire que le mec en face de toi, il te dit, vas-y, moi je pense que c'est comme ça, comme ça, comme ça, et au lieu d'essayer d'attaquer le point de vue de la personne en face de toi, essaye de reformuler et même d'améliorer le point de vue de la personne en face de toi. C'est-à-dire qu'il balance une idée, peut-être qu'elle n'est pas formulée correctement, et dit, ok, donc si j'ai bien compris, ce que tu es en train de dire, c'est que bah, c'est ça, 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 et en plus c'est intéressant parce que ça, ça vient renforcer ton idée, et ça, 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 et t'essayes de reformuler le truc. Et des fois, la personne en face de toi, bah, elle va être complètement d'accord avec ta reformulation, parfois elle va apporter une petite correction, parfois elle va carrément dire que bah non, en fait, t'as pas compris ce que je voulais dire. L'intérêt de faire ça, c'est non seulement de un, de toi te donner la possibilité de grandir, parce qu'en renforçant l'idée de la personne en face de toi, tu t'offres la possibilité de défoncer une idée que tu avais toi-même qui était pourrie, en fait. Tu vois, comme je l'expliquais dans la règle numéro 8, toi, tu construis ta vie via des idées. C'est comme si tu construisais une maison, donc tu as plusieurs briques. Tu dis, ok, il y a cette idée-là qui me permet d'agir de cette manière-là. De cette idée-là naissent cette idée-là et cette idée-là. Donc, cette idée-là, c'est un axiome qui me permet de déduire A plus B. Et donc, tu construis. Mais si à un moment donné, tu te rends compte qu'une des idées que tu avais ici de base, bah, elle était pourrie, c'était une brique pourrie quelque part, il faut que tu la défonces. Parce que si tu retires pas la brique pourrie pour la remplacer par une brique plus saine, au bout d'un moment, ta maison, elle va s'écrouler. Tu es en train de construire une vision du monde qui est absolument bancale. Et donc, parfois, il faut accepter de prendre ta brique et te dire, ok, ça va faire mal, mais vas-y, je retire cette brique pour la remplacer par une brique qui est meilleure. Et boum, boum, tu défonces le truc, tu vois, t'enlèves la brique, t'as toute une façade de ta maison qui s'écroule, mais ensuite, bam, tu reposes une brique beaucoup plus saine qui te fait avoir une maison qui est beaucoup plus solide et qui tient beaucoup mieux avec le temps. Et si ça se trouve, même en renforçant l'idée de la personne en face de toi, vous allez quand même arriver à la conclusion que l'idée que tu avais de base, tu vois, que ton idée à toi, c'est une idée qui est plus solide que l'idée de la personne en face de toi. Et du coup, toi, ça va te permettre d'avoir un argumentaire beaucoup plus solide, tu vas avoir une position beaucoup plus forte, et la prochaine fois que tu discuteras peut-être avec quelqu'un d'autre, tu seras plus solide sur tes positions, et à nouveau,
va falloir du coup éviter de tomber dans la tentation de cette fois-ci j'ai une position vraiment solide, donc la prochaine fois que j'ai une conversation je vais pas essayer de mettre, si ta position elle est vraiment solide, si t'as un Pokémon niveau 100 t'as pas peur tu vois de te mener au combat, donc tu mènes réellement le combat, tu prends le Pokémon en face de toi, tu vois, toi tu sais que t'as ton Pokémon niveau 100 et tu les fais effectivement combattre, et si le Pokémon en face de toi il bat ton Pokémon niveau 100, c'est peut-être que le Pokémon en réalité c'était un Pokémon niveau 101 et du coup vaut mieux peut-être adopter le Pokémon niveau 101. En fait si tu essayes toujours d'avoir raison tu grandis pas et tu restes en fait stupide. Une fois de plus c'est important qu'il y ait un climat de confiance entre ton interlocuteur et toi et que les deux vous soyez dans une logique d'essayer de résoudre un problème et non pas de renforcer vos positions de base. Donc comment se déroule une conversation philosophique ? Alors je l'ai déjà dit, le déroulement est contre-intuitif puisque tu vas devoir utiliser les idées de la personne en face de toi et les renforcer, les rendre aussi puissantes que possible dans le but de défoncer tes propres idées, ce qui va être inconfortable puisque ça va te faire te dire que t'as peut-être passé un certain temps de ta vie à agir d'une manière qui n'était pas optimale, à effectuer des choix qui étaient mauvais, mais c'est faux parce qu'un choix il est mauvais que si au moment où tu l'as exercé, tu savais qu'il était mauvais. Peut-être t'as passé 10 années de ta vie à faire un truc pas optimal, mais le fait que aujourd'hui tu réalises que c'était pas optimal et que tu décides de laisser cette partie de toi mourir, tu décides de laisser le passé derrière et d'avancer, tu vas peut-être... De nouveau, tu vois, le but de la vie, c'est pas d'avancer le plus vite possible d'objectif en objectif. Tes objectifs changent tout le temps. Quand tu te rapproches de tes objectifs, tu te sens bien. Et le but, c'est pas l'atteinte d'un objectif donné, vu que voilà, t'atteins l'objectif et il t'en faut un nouveau deux semaines plus tard, tu vois, t'obtiens ton diplôme à l'université, tu te dis, oh putain, c'était mon méga objectif, pendant 5 ans, tu butais tous les jours pour réussir à avoir ton diplôme. Là, tu te dis, oh, je suis perdu, qu'est-ce que je fais, ma vie n'a pas de sens. Bon, en réalité, il te faut un nouvel objectif, maintenant je vais trouver un taf. Et peut-être que je vais trouver un taf, tu vois, qui fait sens pour moi, etc., etc. Et en fait, le point commun qui a le méta-objectif, dont ta vie, si tu veux, au sens large, c'est d'avancer d'objectif en objectif et de grandir dans le process. Parce que si ça se trouve, le fait qu'aujourd'hui tu te rendes compte que pendant 10 ans de ta vie t'as pas forcément avancé avec la bonne philosophie, tu vois, t'avais des idées qui en réalité te faisaient te voiler la face. Moi ça a été mon cas, tu vois, je parle beaucoup de ça parce que pendant longtemps, comme je l'ai expliqué, dans ma vie, tu vois, je me disais un jour il va m'arriver des trucs bien sans forcément que je commence à bosser pour, tu vois, un jour ma vie elle va prendre un tournant, et donc j'avais juste à attendre, tu vois, il se passait rien dans ma vie, mais je me disais toujours ouais, peut-être c'est demain qu'un jour il va me tomber un truc droit dans la bouche, et donc c'est génial, j'ai juste à attendre, juste à attendre, juste à attendre, juste à attendre. Et j'avais pas envie d'abandonner cette idée, parce que si j'abandonnais cette idée, je devais dire ok, en fait j'ai foiré ma vie, donc je préférais continuer à croire cette espèce de mensonge, cette idée dont je savais qu'elle était fausse, dont je savais qu'elle était corrompue. Mais à partir du moment où tu la laisses tomber, frère, t'es en train de grandir, t'es en train de remplir le méta-objectif de la vie, t'es en train de faire l'objectif qui naît de l'atteinte des objectifs généraux, des petits objectifs de la vie comme faire du sport, etc. Tu vois, genre, c'est le but d'une conversation philosophique, c'est de vivre une déconstruction, reconstruction avec ton interlocuteur parce que vous vous faites confiance, et une fois que vous l'avez fait, vous vous sentez bien de ouf. Vous avez pas vu le temps passer pendant cette conversation, vous êtes fier de vous, les masques, vous les avez posés juste à côté, et vous avez cette sensation comme si vous veniez d'écouter une hyper bonne musique pour la première fois. Tu vois, la toute première fois que t'as entendu, j'en sais rien, un Pump It de Black Eyed Peas, la toute première fois que t'as entendu un son de AC/DC, de Bob Marley, la toute première fois que tu l'as entendu, c'était en mode, ça faisait sens, tu vois. T'as eu l'impression que le truc passait tout seul. Quand t'as une conversation philosophique avec quelqu'un, au cours de laquelle les deux vous engagez honnêtement dans une démarche philosophique, donc dans le but de grandir et de remettre vos idées en question, vous en sortez fier de vous, vous vous sentez bien, vous n'avez pas vu le temps passer. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit sur cette règle, c'est pour ça que c'est important de partir du principe, de supposer que la personne en face de toi sait quelque chose que tu ne sais pas. C'était une règle assez courte, à nouveau elle faisait pas beaucoup de pages. Je vous propose de me laisser un énorme like, de commenter, de dire ce que ça a fait naître en vous, s'il vous plaît. Si vous écoutez ça sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à mettre une note sur Spotify, un commentaire sur Apple Podcast, ça compte beaucoup pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour la règle numéro 10, Be Precise in Your Speech, 12 règles pour une vie du Dr Jordan D. Peterson. Merci encore pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.